Avec celui de leur sacrifice, qu'en est-il d'eux ? Et Jésus leur répondit : Qu'en pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien encore, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Et il dit encore cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir. Donnera-t-il du fruit ? Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Eh bien, ce sont les textes que le Seigneur nous donne aujourd'hui à méditer. Alors, voici une méditation sur la sagesse, notre vocation personnelle. Nous avons lu dans la lettre aux Éphésiens, tout à l'heure, que chaque fidèle sera à sa place pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise ainsi le corps du Christ. Le Seigneur a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou bien missionnaires, de l'Évangile, et à d'autres d'être pasteurs ou d'enseigner. Ainsi, dans le corps du Christ, chacun de nous a une place personnelle que le Seigneur lui a dévolue. C'est d'ordinaire une place très humble de service et de prière. Et pour la remplir, une immense et même infinie communion unit chacun au tout. Personne ne se trouve isolé dans la communion des saints. La sainteté de l'un aide les autres et la sainteté de tous constitue la gloire du Seigneur. Personne ne peut accomplir sa vocation sans le secours du Saint-Esprit. C'est lui qui régit la communion du corps du Christ. Il intervient d'abord dans tous les sacrements. Il en donne la puissance spirituelle. Il se mêle à l'eau par condescendance pour réaliser le sacrement du baptême par eau et par esprit. Il crée l'onction sainte pour affermir le disciple dans le sacrement de la confirmation. Il crée l'union des époux dans une épiclèse des consentements mutuels lors du sacrement du mariage. Et il fait de même pour le sacrement de l'ordre. Il est aussi actif dans le sacrement des saintes huiles qui réconforte le malade. Il est surtout l'auteur de la vie spirituelle, comme nous l'a dit saint Séraphin de Sarov, que la vie chrétienne était l'acquisition du Saint-Esprit. Depuis le péché d'origine, notre être, esprit et corps, a perdu de sa force d'union à Dieu. Nous savons combien des passions diverses ont corrompu ces activités de louange du Créateur et d'amour des autres. Mais le Père ne nous a pas abandonnés dans notre miséricorde, dans notre misère. Il nous a envoyé son Fils éternel Jésus. Il nous a fait don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour remédier à notre faiblesse, pour nous permettre de réaliser notre vocation d'enfant de Dieu, selon la mesure de sainteté qu'il donne à chacun de nous. Pour réaliser cette mission, le Saint-Esprit crée des forces divines dans l'âme. Ce sont ce qu'on appelle traditionnellement les sept dons du Saint-Esprit. Et il crée aussi des vertus. Rappelons ces dons. Le premier, c'est le don de sagesse que nous avons médité au cours de cette retraite, qui a pour but de nous enseigner comment vivre droitement l'amour de Dieu et des frères. Le second est l'intelligence, qui éclaire en nous les vérités de la foi. Le troisième, la science, qui nous permet de comprendre la création, son ordre, la nature des choses créées. Le conseil, qui éclaire notre jugement prudentiel. La piété, qui anime notre cœur de sentiments d'amour de Dieu et des hommes. La force, qui nous rend aptes à vivre la vie spirituelle. La crainte, qui nous apprend à redouter le péché qui pourrait nous faire perdre l'amitié divine. En plus de ces sept dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même crée dans l'âme des forces appelées des vertus qui renforcent les dons. On distingue trois sortes de vertus. La première, c'est la vertu intellectuelle ou sagesse qui permet de voir les choses dans la lumière des réalités supérieures. Et aussi dans cette catégorie, la vertu de prudence, qui est une sagesse, qui fait agir droitement. La deuxième catégorie, ce sont les vertus morales. Elles sont nombreuses et elles règlent avec sagesse le comportement et la conduite des personnes. Parmi elles, il y a quatre vertus plus importantes, appelées des vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. La troisième catégorie de ces vertus est appelée des vertus théologales. Ce sont les vertus surnaturelles qui élèvent l'esprit vers le haut pour faire la volonté de Dieu. Elles sont directement tendues vers Dieu. C'est la foi, l'aptitude à connaître Dieu et son mystère. Elle nous apporte la certitude intime que Dieu est amour, que nous sommes aimés de Dieu, ses enfants, dans le Fils éternel. C'est l'espérance qui nous certifie l'accomplissement des promesses divines. Une vie d'espérance est tendue vers le bonheur infini à venir que Dieu réserve aux siens. Et c'est la charité, la vertu de l'amour, qui est le bien supérieur, le plus désirable, qui amène le cœur à aimer Dieu par-dessus tout. La vertu de charité vient unir à Dieu dans un puissant amour que crée le Saint-Esprit dans l'âme fidèle. Ces vertus nous sont données a priori, sans que nous n'ayons rien à faire pour les acquérir. Elles font partie de notre patrimoine naturel, de notre nature humaine. Notre œuvre est simplement de les accueillir, de les fructifier comme des plantes dans le jardin qui demande à être entretenu. Et ce jardin, c'est notre âme. Le divin semeur y a semé ces semences-là de vie divine. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre vocation personnelle d'enfant de Dieu. Cette vocation nous est donnée par Dieu dans notre conception. La Vierge Marie l'a reçue ainsi, avec tout l'appareil des dons et des vertus, de façon excellente, pour réaliser sa vocation de mère du Christ Jésus Seigneur. Ces vocations sont diverses, et quand nous ne comprenons pas qu'elles sont données pour réaliser la plénitude du corps du Christ, nous sommes jaloux de ce que l'autre a reçu et que nous n'avons pas. Saint Paul nous apprend à travailler pour la construction du corps entier. En vivant sincèrement dans l'amour, nous grandirons dans le Christ, dit-il, pour nous élever en tout jusqu'à lui qui est la tête. Nous avons donc une part dans l'achèvement du corps du Christ, une activité à la mesure de chaque membre, dit saint Paul. La sagesse de la croix enseigne le chemin de notre participation à l'achèvement du corps du Christ. C'est ce que nous dit encore saint Paul. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Eh bien, nous avons vu que cette sagesse a fait les saints, chacun selon la mesure de grâce impartie par le Seigneur. Nous sommes chacun sur le même chemin, avec la même grâce d'accomplissement en nous, de la plénitude du Christ, et chacun selon la mesure qu'a fixée le Christ en vue du bien commun éternel qu'est la vie dans son royaume.